pour, dans les minutes qui nous restent et en espérant avoir un peu de discussion, l'idée c'est de voir un petit peu comment l'entrenet peut être utilisé comme concept. Et je voudrais partir de cette idée que dès le début, que ce soit Daniel ou dans les premières présentations, a été indiqué le fait que l'entrenet c'est vraiment l'entre quelque chose. Avec l'idée que ce qui ont été les acteurs de l'innovation n'ont pas été forcément ceux qu'on attendait, les early adopters et les technophiles, mais souvent des mômes comme ceux qui utilisent le Skyblog, des gens qui pouvaient être dans des manifs à tel ou tel endroit, et qui avaient là donc des acteurs de l'innovation qui n'étaient pas forcément ceux qu'on attendait. Et que les outils qu'ils utilisaient n'étaient pas forcément ceux non plus sur lesquels nous attendions à trouver de l'innovation la plus décoiffante, entre guillemets. C'était un peu d'innovation ascendante, mais pas toujours, beaucoup de libre, mais pas que ça, et une espèce d'entre-deux qui fait qu'une fois de plus, il fallait prendre les choses un peu par le milieu et qu'on ne s'arrêtait pas simplement à ce qui nous apparaissait être les points avancés, soit des acteurs de l'innovation, soit des outils de l'innovation. Mais en même temps, si je partage absolument ça, je voudrais vraiment qu'on évite de penser que l'entrenet, c'est un peu un entre-deux où les choses sont mi-chèvre, mi-chou, un clair-obscur, un peu tiède, parce que je pense que vraiment que ce à quoi nous assistons, c'est une rupture majeure. Alors, pas forcément une rupture technologique. Je pense qu'on y reviendra tout à l'heure, mais que c'est une rupture avant tout sur l'usage et sur les services, mais qu'il y a une vraie rupture qui se voit par le nombre d'innovations et leur caractère cumulatif. Hier a été présentée toute une série d'outils du Web 2.0, vous avez pu voir un peu tout ce qui se jouait derrière ça, mais surtout parce qu'il y a imbrication entre ces outils et ces services et des usages sociaux qui sont eux-mêmes cumulatifs dans la façon dont ils se construisent les uns par rapport aux autres. Quand le téléphone mobile est arrivé, d'une certaine façon, on a continué à se parler. Alors certes, le fait de bouger a changé beaucoup de choses, mais on faisait à peu près la même chose que quand on téléphonait en fixe, mobilité en plus. Alors c'est rajouter le SMS. Mais là, quand vous prenez la série des outils et regardez, rappelez-vous ce que Chris vous a montré sur la façon dont ils se sont développés pour pouvoir diffuser cette idée débarquante, on voit à quel point le tout va être cumulatif et comment, par cette capacité de se présenter soi-même sur des services, des outils, des moyens de rencontre avec des gens, mais aussi des moyens de recherche d'autres choses, on a quelque chose de tout à fait explosif qui est en train de se mettre en place et on est probablement qu'au tout début de cette rupture-là. Alors en même temps, attention sur les rythmes de cette rupture et je voudrais insister là-dessus parce que c'est un sujet qui a été peu discuté ici. La Californie a des particularités qui font penser que les choses iront plus lentement ici ou en tout cas qu'on ne sera pas demain dans l'état d'esprit qui est celui que la petite vidéo vous a montré. D'abord parce qu'il y a une rupture culturelle importante entre la première vague du web, celle des années 90, et celle d'aujourd'hui, qui est la montée du logiciel libre comme idéologie, pas simplement comme pratique, mais aussi comme idéologie, et toute une série de choses qui sont très importantes dans la baie de San Francisco. C'est pas loin de Seattle, avec les manifestations de Seattle. San Francisco, c'est la ville qui a été paralysée par les anti-guerres le jour de l'intervention américaine en Irak, et c'est une ville dans laquelle, vous l'avez peut-être vu dans la vidéo, l'idée proteste express est particulièrement importante dans une idée d'horizontalité très grande et de participation très grande. C'est pas toute l'ensemble des États-Unis qui sont dans cette culture-là, mais San Francisco l'est. Deuxième caractéristique tout à fait propre à San Francisco, c'est le seul endroit du monde où la masse critique de développeurs est telle que rien qu'en discutant entre eux, il y a de l'innovation et de la créativité, alors que dans d'autres régions du monde, qui peuvent être New York ou Paris, les développeurs sont happés par des besoins spécifiques du secteur bancaire, du secteur industriel ou tout autre, et il n'y a pas cette masse critique qui est, à mon avis, pour l'instant, encore unique à San Francisco, peut-être en Inde demain, mais aujourd'hui San Francisco. Puis il y a troisième chose qui est importante aussi dans cette région-là, c'est le fait que les usages des médias sociaux ont commencé il y a très longtemps. Et ça, c'est souvent ignoré, mais ça a été présenté hier quand dans les différentes applis Web 2.0, on vous a parlé d'un tout petit truc qui est la Craigslist. La Craigslist, c'est vraiment un truc assez moche dingue, pas de design du tout, c'est une liste de petites annonces, mais qui couvre un champ très large. Vous pouvez acheter une moto, trouver des copains, trouver ce que vous voulez, aller à une réunion politique, ce que vous voulez, n'importe quel événement social. Et c'est sur le modèle du réseau social, puisque c'est vous qui postez, les gens peuvent vous retrouver par là. Ça existe depuis 10 ans maintenant. Et c'est vraiment le service qui est le plus utilisé à San Francisco et par tout le monde, tout âge, toute catégorie sociale. Et ça a donné une accoutumance de masse à des outils qui aujourd'hui peuvent s'étendre, alors qu'ici, le tag, les réseaux sociaux, ça commence à peine et on est très très loin d'une pratique de masse. Et ce qui explique pourquoi l'avance dans le caractère cumulatif de ces innovations-là prendra probablement un peu plus de temps chez nous. Il ne faut pas s'attendre que dans les 3 mois, l'affaire soit faite. Alors maintenant, ce qui est intéressant à discuter, c'est d'essayer de comprendre la nature de cette rupture et de voir ce en quoi les éléments qu'on peut identifier peuvent être des pistes pour pouvoir travailler ensemble et trouver des pistes de choses et des choses pratiques à faire ensemble. Alors, Comme je disais tout à l'heure, mon impression, c'est que la rupture n'est pas tant une rupture technologique. Alors, quand je dis ça, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des vrais défis, hein, des vrais défis de recherche auxquels on réfléchit, que ce soit FTRD ou ailleurs, hein, bien évidemment. Je donne deux petits exemples de vraies pistes, de vrais problèmes à résoudre. Ces réseaux sociaux sont des réseaux très opaques. Comment s'y retrouver? Comment s'y repérer? Comment une page Wikipédia a été conçue? Combien de gens y sont intervenus? Comment s'y retrouver dans MySpace? Pour ça, on a besoin d'outils de repérage, de visualisation qui posent des problèmes assez compliqués. Il y a toute une série de gens qui travaillent avec des axes de recherche comme Autographe qui ont été montés entre des universités, des institutions de recherche, des industriels, des petites entreprises, mais qui essayent de s'atteler à cette question-là. Autre exemple de problème qui est peut-être encore plus compliqué, c'est le passage à la mobilité. Hein, bon, le portable n'a pas l'ergonomie pour, en plus il est quand même assez verrouillé par les cartes SIM des opérateurs, mais si on se projette à 10 ans, on peut penser que les réseaux ad hoc, où nos portables communiqueront les uns avec les autres pour permettre une extension très massive des communications directe entre portables sera probablement l'outil par lequel on communiquera. Bon. Mais ce genre de choses demande des passages à l'échelle qui ne sont pas résolus aujourd'hui et qui sont des points de recherche durs travaillés dans tous les centres de recherche du monde et qui sont une des questions importantes. Il y en aurait d'autres, j'en ai cité deux pour pointer ça. Donc il y a quand même des technos, hein, qui sont des technos, qu'elles soient visu ou purement hard, qui méritent travail, mais la rupture majeure, elle est sur les usages et sur les services. Et il y a trois idées, je pense, qui sont centrales et qui nous permettent de réfléchir à la manière de travailler, même si c'est des gros défis, y compris pour des centres de recherche comme celui de FTRD. Premier défi, l'innovation se place dans un circuit et apparaît dans les circuits infiniment plus courts que les circuits traditionnels. Pour ceux et celles d'entre vous qui ont travaillé dans la recherche, il y avait un circuit assez classique. C'était d'abord la recherche fondamentale, ensuite la recherche dite appliquée, maintenant dite finalisée, ensuite de l'innovation, et puis ensuite on passait par les circuits marketing, on validait, il y avait les tests clients. Enfin, il y avait toute une longue chaîne qu'on connaît bien. Hein. Bon, c'est plus comme ça que les choses se font. Hein. Entre le moment où Google crée son nouvel algorithme de ranking et il le met sur le web, c'est quasi immédiat. Donc un défi majeur, ça pose des tas de problèmes pour toutes les chaînes de décision dans toutes les entreprises. Deuxième point dur dans ce qui est en train d'apparaître, c'est la nécessité d'une approche croisée. Et ça, c'était pas non plus traditionnel. Il y avait toujours auparavant l'idée qu'il fallait une conception de service plus de l'ergonomie et du design. C'était en gros comme ça les choses se faisaient. Comment fonctionne un réseau social? Est-ce que, par exemple, un réseau comme MySpace peut fonctionner dans l'écosystème culturel français, espagnol, anglais, allemand ou tout autre? Ces questions-là méritent qu'il y ait une réflexion, de même que les modèles économiques, on en a parlé plusieurs fois ici, et on voit se créer des équipes qui sont toutes des équipes combinées entre ces différentes disciplines. Alors le vrai défi, c'est de ne pas se contenter de sociologues et d'économistes, et de considérer que c'est mieux si c'est la société elle-même qui interréagit, et si on peut créer des contextes dans lesquels les innovateurs sont tout autant les utilisateurs que ceux qui sont censés parler en leur nom, sociologues, marketeurs ou tout autre, mais qu'on ait les moyens d'avoir une interaction directe dès le démarrage de la conception de l'idée, du service, de l'application qui doit être pensée. Et puis dernière chose, c'est beaucoup plus coopératif qu'auparavant. Hier, on a eu cette discussion-là pour savoir si le libre était le seul moteur de ces innovations ou si des choses comme des ouvertures d'API n'étaient pas tout aussi importantes. Mais quoi qu'on pense du curseur, dans tous les cas, le coopératif est clé. Alors, une question quand même que je soulève ici, parce que c'est une question qui n'est pas simple pour nous, y compris en France, à cause du retard relatif par rapport aux États-Unis, à l'Inde et à d'autres régions, c'est que l'économie particulière des services web est très différente des services traditionnels qui sont les nôtres. Moi, je travaille à France Télécom, je pense à EDF ou à des services de ce genre. Ceux qui sont sur le terrain ont un avantage qualitatif décisif sur les autres. On peut avoir une innovation demain à Verizon, AT&T ou Deutsche Telekom. France Télécom peut avoir un an de retard. On a de tels liens avec notre réseau clientèle, les administrations locales, la législation du pays, les façons de travailler, que même un an de retard, on le rattrapera toujours. Et EDF, ils peuvent faire aussi doubler sur une innovation majeure en électricité, ils le rattraperont toujours dans les 6 mois, dans l'année qui viennent. Ça fonctionne bien quand vous êtes sur ces services où les racines, les feuilles et les branches sont la clé du service. Mais quand vous êtes dans un service comme un service web, tout est différent. Et celui qui a l'idée qui casse le modèle antérieur prend le monopole, et le monopole est là pour longtemps. Maintenant qu'on a Google, il faudra trouver une vraie rupture majeure pour que quelqu'un utilise un autre moteur de recherche. Et quand vous prenez la plupart des applications web, elles sont comme ça. Aujourd'hui, pour les blogs, le monopole, c'est Technorati. Pour le rank, enfin, pour le marque-page, c'est Delicious. Pour, etc., etc. Alors, il y a quelque chose qui est heureusement, d'une certaine façon, pour nous tous, dans l'entre-deux. C'est les médias sociaux. Parce que là, il y a de la culture. Et MySpace, c'est quand même les ados américains. C'est pas les ados français qui, eux, seront plutôt sur Skyblog ou sur tout autre. Et donc, il y a des marges. Mais ces questions-là sont des questions peu réfléchi. Et l'ouverture des API pose un problème, évidemment, à cet égard, puisqu'une fois que vous ouvrez les API, comme Google le fait, que vous greffez sur Google, vous donnez au monde Google un avantage considérable. Alors, ça ne veut pas dire pour autant qu'il faut faire la grande bibliothèque à la Quero ou tout autre, mais il y a là un enjeu de réflexion pour nous tous qui est important. Alors maintenant, en conclusion, pour pas être trop long, sur ce qu'on peut faire ensemble. Je pense que l'idée, c'est de partir de ces trois pistes, hein, une innovation courte, une innovation qui nécessite des approches croisées, une innovation coopérative, pour essayer de réfléchir à des lieux où on puisse faire ça ensemble. C'est des choses qui montent partout, hein. J'étais très frappé de voir que l'idée des Brestois, il est parti parce qu'il avait son train, c'était de monter l'équivalent du Wine Camp sous une forme Rest and Change Camp, qui est l'idée de faire travailler les gens Wiki, secteur non-profit et Bar Camp à Brest, mais aussi à Montréal. Hein, bon. Donc on voit que tout ça est en train d'émerger un peu partout. Je pense qu'il y a des tas d'initiatives à prendre. Hein. Il y en a plusieurs qui sont en route. Il y a les barcamps. Hein, donc il y en a un qui est lancé à partir de samedi. Je ne refais pas la pub qui vient d'être faite. Il y a des idées de monter des maisons du libre. Hein. Je sais que Dominique est lancé sur ce genre d'idées, avec l'idée même d'un bus itinérant ou toute autre forme. On a quelque chose qu'on est en train de réfléchir, au moins à Paris et en Bretagne, qui est l'idée de monter une espèce de centre commun de recherche et d'innovation avec des universitaires, des associatifs comme la FIG, mais aussi l'April, l'Association du logiciel libre, VK, ou d'autres, et des industriels ou des acteurs comme France Télécom R&D, avec l'idée qu'on voudrait voir comment innover avec les utilisateurs, comment faire du média social et de la recherche, mais dans un cadre où on est à la fois des académiques, des industriels, et puis des lambda, des associatifs. C'est ce genre de projet donc qu'on a lancé, qui va être présenté aussi au Barcamp demain, ou que vous pouvez retrouver sur le wiki dit overcrowded, peu importe le terme, dans lequel il y a aussi des recherches artistiques. Hein, Olivier Aubert, qui est ici présent, il a parlé tout à l'heure, s'occupe de ça et présente des choses qui sont l'idée d'agrégateurs poétiques, et maintenant un nouveau concept qui est un agrégateur fractal qui permet de visualiser différemment les interactions dans les wikis. C'est tout ça qu'on voudrait faire avec d'autres dans un esprit d'ouverture la plus large possible, et qui sera une des initiatives, évidemment pas la seule, hein, mais une des initiatives auxquelles je pense qu'on pourrait, à laquelle on pourrait collaborer. Je vous remercie.